Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est la dernière journée de janvier, 31 janvier 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Êtes-vous prêt pour la Saint-Valentin?
Oh, je suis prêt pour l'été en fait.
Oh! Mais là, vous n'avez pas vu vos shorts quand même aujourd'hui.
Non, non, non. Mentalement, je suis prêt.
Oui.
Je suis prêt déjà à me plaindre de l'été chaud qu'on aura.
Vous n'êtes pas comme votre collègue Mathieu qui adore l'hiver.
Non.
Non.
Non, c'est tout ce que je dirais à ce sujet.
Alors, allez-y donc avec les éphémérides dans ce cas-là.
31 janvier, on ne dénote aucune journée nationale, internationale ou mondiale, quoique au Québec, ou du moins au Canada, Bell souligne le 31 janvier comme étant « on cause pour la cause », journée de sensibilisation pour la santé mentale. 31 janvier 1578, l'armée espagnole sous la direction de Don Juan d'Autriche et Farnèse écrase l'armée de 16 des 17 provinces des Pays-Bas à la bataille de Jombloux. 1606, Guy Fawkes, qui avait voulu faire sauter le parlement anglais, est exécuté. 31 janvier 1839, à Londres est publié le rapport du gouverneur John George Lambton Durham, Lord Durham, recommandant l'union du Haut et du Bas-Canada avec l'anglais pour unique langue officielle. 1881, obsèque nationale de Fyodor Dostoïevski, suivi par 30 000 personnes. 31 janvier 1895, Lord Rayleigh et Sir William Ramsay font à la Royal Society la communication officielle de leur découverte d'un nouvel élément chimique, l'argon, qui est le 19e sur le tableau des périodiques. 1928, petite question de culture générale, Hélène. La Minnesota Mining and Manufacturing met en marché un produit. Est-ce que vous avez une idée?
Avez-vous des choix de réponse? Parce que je vous écoute à moitié.
Donc, on parle de la Minnesota Mining and Manufacturing. On pourrait penser à une usine, en fait, une mine au Minnesota.
Oui.
La MMM, la 3M, compagnie 3M, déjà on se rapproche. Je vous le donne en 1928, le scotch tape transparent fait son apparition.
Ah oui, tellement utile, mais je ne l'aurais pas deviné.
1949,
vous m'avez posé une colle.
Oh! 1949, reconnaissance de l'État d'Israël par les États-Unis. 1950, le président Harry Truman annonce le lancement des travaux pour créer la bombe à hydrogène. Et on l'a su hier avec la déclaration de l'Union de Donald Trump que le vrai problème dans le monde, c'est que les États-Unis n'ont pas assez de bombes. Qu'on se le tienne pour dit. 1951, à 2h55 du matin par 25 degrés Celsius sous zéro, donc moins 25, à Trois-Rivières, le pont du Plessis, long de 600 mètres, s'écroule dans le Saint-Maurice. 4 personnes dans des automobiles perdent la vie. 31 janvier 1958, 4 mois après le Sputnik russe, le premier satellite américain Explorer 1 est lancé de Cap Canaveral. 1974, lancement d'Apollo 14, 8e mission habitée du programme Apollo. 1986, la presse canadienne achète une agence concurrente, la United Press Canada. 1994, 31 janvier 1994, on apprenait, et je le dis avec une nuance, on apprenait que janvier a été le mois le plus froid de l'histoire canadienne de la météo. Donc, on parle d'une température moyenne à Montréal de moins 16,4 degrés Celsius, la plus basse recensée depuis 1871, tandis qu'à Québec, moins 18,7 degrés Celsius, la plus froide depuis 1870. Mmh. Je n'ai pas réussi à trouver l'information si le record a été battu depuis. Cette information, je la tiens via le site du Soleil, qui a été mis à jour dans les dernières heures. L'information n'a pas été corrigée. Donc, même si cet hiver est très pénible, très froid, apparemment que le record est en 1994. 2001, Molson vend le club de hockey canadien à l'américain George Gillette. Et 31 janvier 2003, le président américain de l'époque, George W. Bush, ainsi que le premier ministre britannique de l'époque, M. Tony Blair, déclare que Saddam Hussein n'a pas procédé au désarmement de l'Irak selon les demandes de l'ONU et qu'il doit être tenu responsable par les communautés internationales. 31 janvier, anniversaire de naissance du compositeur viennois Franz Schubert, né en 1797. En 1937, du compositeur américain Philip Glass. Et 1964, de la championne canadienne de plongeon Sylvie Bernier. et finalement, décès 31 janvier 1907 du marchand canadien Timothy Eaton. Derrière, bien sûr, la chaîne de magasins oui. du même nom.
Quel âge a-t-elle, Sylvie Bernier, Jean-Sébastien?
Elle est née en 1964. Alors, elle
53.
A...
Non, 54. On est en 2018.
Et voilà.
Merci. À la une de la presse, la chronique de Michel Ouimet. Deuil public, peine intime. Elle a perdu son fils dans un accident de vélo sur la voie Camillien-Houde qui a touché tout le Québec l'automne dernier. La tuerie de Polytechnique lui a volé sa sœur en 1989. Catherine Bergeron raconte son double deuil. La chronique de Patrick Lagacé, voici le visage des soins infirmiers. Sport, la fois où j'ai patiné avec Crosby, Mont-Tremblant, début janvier, qui donc débarque avec ses patins et son hockey? Récit. Et la chronique d'Hugo Dumas, jouer une fille de 10 ans à 28 ans, la surprenante comédienne Karan Laurent. Et dans la section Dernière heure de la presse plus, les parents d'Alexandre Bissonnette ont brisé le silence. Ils ont écrit « Vivre un véritable cauchemar depuis la nuit du 29 janvier 2017, à l'issue de laquelle ils ont perdu un fils. Après s'être murés dans le silence pendant des mois, Manon Marchand et Raymond Bissonnette ont choisi de s'exprimer pour la première fois publiquement dans une lettre obtenue par Radio-Canada. Ils ont attendu la fin des commémorations du premier anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec pour parler. Alexandre demeure notre fils que nous aimons et qui fera toujours partie de notre famille. Comme tous les parents, nous avions espoir de le voir réussir et être heureux dans la vie. Dans un sens, nous avons nous aussi perdu un fils, écrivent la mère et le père. Leur silence sur la place publique ne les a pas empêchés de s'exprimer privément. Ils dévoilent ainsi avoir écrit une lettre personnelle aux familles des victimes pour exprimer leurs condoléances. Cette lettre leur a été remise par l'entremise du président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi. L'immense peine et la douleur causée aux innocentes victimes et leurs familles par ce geste inexcusable reste pour nous encore à ce jour totalement inexplicable, écrivent les parents. Tant de vies ont été détruites inutilement. Et toujours en dernière heure, Grégory Charles affirme que le piéton âgé de 77 ans qui est dans un état critique à l'hôpital mercredi matin, donc ce matin, après avoir été happé par un véhicule de déneigement la veille dans l'ouest de Montréal et son père. L'accident s'est produit vers 17h30 à l'angle des chemins de la Cour des Neiges et Belvedere. Sur sa page Facebook, l'animateur et musicien explique que son père, Lennox Charles, a été frappé en revenant de l'église où il allait tous les jours depuis la mort de son épouse et mère de Grégory Charles il y a un an. Selon le service de police de la ville de Montréal, le septuagénaire qui marchait sur le chemin de la Cour des Neiges aurait tenté de traverser lorsqu'il a été heurté par un tracteur de déneigement qui circulait sur le chemin Belvedere vers l'ouest. Grégory Charles affirme que l'impact a été brutal. Le conducteur du tracteur de déneigement, âgé de 69 ans, n'a pas été blessé. Grégory Charles conclut son message en affirmant que s'il est un homme qui croit au pouvoir de la prière, c'est son père. L'artiste serait reconnaissant aux gens qui réserveraient l'une de leurs prières ou de leurs pensées à Lennox Charles aujourd'hui. L'ancien porte-parole de la SQ aurait produit un faux document de sécurité. L'ancien porte-parole de la Sûreté du Québec, Benoît Richard, fait face à des accusations criminelles pour avoir fait un faux document de vérification de sécurité dans le but d'aider une femme à se joindre à la SQ. Le sous-officier est accusé d'abus de confiance par un fonctionnaire public et de fabrication et d'utilisation de faux documents. La SQ a refusé de commenter les circonstances de ces crimes allégués. Les citoyens sont en droit de s'attendre à un comportement irréprochable de la part des policiers chargés de faire appliquer la loi. Ces comportements allégués ne correspondent pas aux valeurs prônées par la Sûreté du Québec, a déclaré l'inspecteur Guy Lapointe, directeur des communications de la SQ. Le policier de 47 ans faisait l'objet d'une enquête de la Direction des normes professionnelles. Les affaires internes de la SQ, depuis l'automne 2016, avaient révélé la presse en décembre de la même année. Il est depuis suspendu avec solde. S'il est reconnu coupable, le sous-officier d'expérience sera automatiquement destitué de ses fonctions, comme le stipule la loi sur la police. Pendant sa suspension, l'ancien porte-parole de la SQ a continué de s'adresser aux médias. En vacances en République dominicaine, le résident de Joliette a accordé quelques entrevues à des médias québécois en septembre dernier au sujet de l'arrivée de l'ouragan Irma dans les Caraïbes. Québec veut suivre la trace des sols contaminés. Le gouvernement lancera sous peu un projet pilote pour améliorer la traçabilité des sols contaminés qui sont excavés des chantiers de construction, a indiqué hier la ministre de l'Environnement Isabelle Melançon. La presse a rapporté hier que les autorités ont perdu la trace de 3 000 tonnes de sols souillés aux hydrocarbures et aux métaux lourds provenant du chantier de l'école Barry dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils avaient été pris en charge par l'entreprise d'un ancien partenaire des Hells Angels, gestion OFA Environnement. Les sols devaient être expédiés à une entreprise établie à Québec, accréditée par le ministère de l'Environnement. Ils ont plutôt été acheminés vers une autre société portant le même nom, mais située près d'East Hawkesbury, en Ontario. La firme en question opérait apparemment à partir d'un lieu qui ne comporte pas d'adresse. Rien n'interdit d'expédier des sols contaminés vers l'Ontario, où les règles encadrant leur traitement sont moins strictes qu'au Québec. Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement, Sylvain Gaudreau, s'est dit scandalisé et préoccupé par les révélations qu'il a lues dans la presse. Il a pressé la ministre Melançon d'agir au plus vite. Alerte aux missiles à Hawaï, le fonctionnaire pensait que c'était vrai. Le fonctionnaire qui a lancé une fausse alerte aux missiles balistiques qui a semé la panique à Hawaï était en fait convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un exercice et que l'île paradisiaque était bien visée par un vrai engin. L'employé de l'Agence de gestion des urgences d'Hawaï, HEMA en anglais, affirme ne pas avoir entendu une mise en garde répétée qu'il s'agissait d'un exercice selon un rapport préliminaire sur l'incident du 13 janvier, publié par la commission chargée de la régulation des communications FCC. L'alerte avait été lancée sur tous les téléphones portables et téléviseurs de l'île. Selon le rapport, la phrase « Ceci n'est pas un exercice » avait été incluse par mégarde dans l'enregistrement lançant l'exercice, ce qui a poussé le fonctionnaire à lancer une alerte aux missiles balistiques plutôt qu'un simple message « test ». Plus de 270 000 Syriens ont dû fuir les combats dans les provinces d'Idleb et de Hama dans le nord-ouest du pays. Entre rebelles et forces gouvernementales, depuis la fin du mois de décembre, a indiqué un haut responsable de l'Organisation des Nations Unies. Les camps qui doivent accueillir ces personnes déplacées ont dépassé leur capacité, ce qui force de nombreuses personnes à s'installer dans l'un des 160 campements de fortune à Idleb, a expliqué Ursula Müller, secrétaire générale adjointe chargée des affaires humanitaires au Conseil de sécurité. Pendant ces mois d'hiver humides et froids, de nombreuses familles n'ont rien d'autre qu'une tente improvisée comme abri qu'elles doivent partager avec d'autres, a-t-elle déclaré.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait dansant sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, on ne leur dit jamais assez qu'on les aime.
On vient d'entendre Valérie Carpentier qui reprenait cette pièce de Louis Chédid, « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime ». Qu'on les aime.
Vous devriez faire de la radio, Jean-Sébastien. Vous avez une très belle voix radiophonique. Bon, si c'était plus fort que moi, il fallait que je le dise. Ah, je pensais pas que j'étais la troisième à vous le dire, Jean-Sébastien. Paraît-il que vous êtes pas mal populaire auprès des animateurs et animatrices ici au Canal M et ailleurs, j'en suis certaine, par les auditeurs aussi qui vous entendent. Bon, cela dit, Le Devoir, à la une, discours sur l'état de l'Union, Trump, le moment présidentiel, un appel à l'unité des législateurs pour le mieux-être du pays. Alors, on voit Donald Trump, il a un verre, j'imagine que c'est de l'eau, il a l'air de vouloir trinquer. Donald Trump a livré son discours sur l'état de l'Union mardi soir, lançant ainsi la deuxième année de sa présidence des États-Unis. Et derrière lui, le vice-président Mike Pence et le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. La présidente de l'UQAM démissionne. Lise Bissonnette dénonce le fatalisme qui nuit au développement du réseau de l'Université du Québec. Livre Maria Chapdelaine découpée et caviardée. L'artiste Meb, M-E-B, sculpte son poème à même le célèbre roman du Canada français. Bataille interprovinciale, la Colombie-Britannique vient de poser un nouvel obstacle à la réalisation du projet pétrolier Trans Mountain, ce qu'a aussitôt dénoncé l'Alberta. Régie du logement, Lise Thériault mise sur la médiation. Et exposition Napoléon sur le terrain de l'image au MBAM, le Musée des beaux-arts de Montréal. C'est un Donald Trump en rupture avec son ton flamboyant et sa personnalité imprévisible qui s'est présenté devant le Congrès américain mardi soir. « Nous avons fait d'incroyables progrès », a-t-il souligné alors qu'il entamait son premier discours sur l'état de l'Union. s'en tenant au scénario écrit d'avance en continuité avec la tradition. Commençons par reconnaître que l'État de l'Union est fort parce que notre peuple est fort, a-t-il poursuivi. Cette nouvelle vague d'optimisme se reflète dans les 2,4 millions d'emplois créés, dont 200 000 emplois manufacturiers, précise M. Trump, cherchant à plaire à cette frange de son électorat. L'une de mes plus grandes priorités est de réduire le prix des médicaments, a annoncé Donald Trump quelques minutes après s'être félicité d'avoir abrogé le cœur désastreux de l'Obamacare. L'Amérique a enfin tourné la page sur des décennies d'accords commerciaux injustes qui ont sacrifié la prospérité, a aussi affirmé le président. Un groupe de 36 sénateurs avait appelé son gouvernement mardi dans une lettre à ne pas retirer les États-Unis de l'ALENA. Il faisait entre autres valoir que les Canadiens et les Mexicains achètent près de 500 milliards en biens manufacturés chaque année. Alors que nous reconstruisons nos industries, il est également temps de reconstruire nos infrastructures croulantes, a poursuivi Donald Trump. Les détails attendus sur son plan d'infrastructure de 1 500 milliards, 1,5 billion de dollars, n'ont pas été livrés en entier mardi soir. L'immigration reste le domaine pour lequel Trump a donné le plus de précisions sur son programme pour l'avenir à venir. Les quatre piliers pour mettre l'Amérique d'abord incluent l'embauche d'agents frontaliers, la limitation du regroupement familial et l'élimination du système de loterie des visas. Une douzaine de démocrates ont boycotté le discours de mardi soir, selon le Washington Post. Usée par le fatalisme de la classe politique, la présidente du Conseil de l'Université du Québec à Montréal, Lise Bissonnette, tire sa révérence. Elle a donné sa démission mardi soir en dénonçant l'iniquité flagrante favorisant les universités à charte aux dépens de celles du réseau de l'Université du Québec. Après 5 années aux commandes du CA de l'UQAM, Lise Bissonnette avait le cœur lourd en envisageant le 50e anniversaire de fondation de l'établissement, qui sera célébré en septembre 2019. « J'aurais abordé les célébrations avec des sentiments mêlés, barbouillés », indique-t-elle. Le réseau de l'UQ a été créé en 1968 pour rendre l'enseignement supérieur accessible aux francophones de la classe moyenne, qui étaient nettement sous-scolarisés. Les 10 universités de l'UQ sont établies dans toutes les régions du Québec. L'UQAM, elle, est née en 1969. Lise Bissonnette a étoffé les arguments avancés dans une entrevue récente au Devoir. Les établissements du réseau de l'UQ sont considérés comme des universités de seconde zone. Ils font un travail extraordinaire malgré un mépris généralisé de la classe politique et économique, selon elle. La meute réplique à Justin Trudeau. Les propos tenus lundi soir à Québec par Justin Trudeau font tiquer la meute. Le premier ministre, qui a traité les membres du groupe nationaliste identitaire de « nono », entre guillemets, a été copieusement insulté par l'un des adhérents de premier plan de l'organisation mardi. Le premier ministre n'a pas manifesté de regret d'avoir déclenché l'escalade verbale qui se lit dans un message publié sur la page Facebook publique du regroupement par Sylvain Maïkan, Brouillette, qui taxe Justin Trudeau sans le nommer de, et je cite, « trou de cul ». Régie du logement, Lise Thériault mise sur la médiation. Pour réduire les longs délais de la Régie du logement, la nouvelle ministre de l'Habitation, Lise Thériault, a décidé de tabler sur un nouveau service de médiation qui sera testé cette année dans le cadre d'un projet pilote. La médiation entre propriétaires et locataires serait offerte avant leur passage devant le régisseur. Une façon pour la ministre d'offrir une voie rapide au traitement de certains dossiers et de réduire les délais d'attente. À l'heure actuelle, il faut patienter en moyenne près de 2 mois pour des causes civiles urgentes et les demandes en fixation et révision de loyer nécessitent plus de 9 mois d'attente. Dans un autre dossier en habitation, elle s'est engagée à boucler le financement de 7000 logements sociaux, Accès Logis, dont la réalisation est bloquée dans certains cas depuis des années. Enfin, Mme Thériault s'intéresse aussi à la question de l'accès à la propriété. Elle rappelle que la proportion de locataires au Québec demeure beaucoup plus élevée qu'ailleurs au Canada. Pendant que 330 chauffeurs d'autobus d'écoliers syndiqués à la CSN débraient dans la région de Montréal mardi et mercredi, une soixantaine de conducteurs syndiqués à la FTQ à Longueuil ont réussi à éviter la grève. À Montréal, environ 15 000 écoliers qui utilisent 300 parcours d'autobus sont touchés par deux journées de grève. Les points en litige portent sur les salaires et la durée du contrat de travail. À Longueuil, une soixantaine de chauffeurs d'autobus et une dizaine de mécaniciens ont réussi à s'entendre avec l'employeur, Autobus Longueuil, pour un contrat de 2 ans. Internet a franchi la barre des 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Au Canada, les données font ressortir un taux de pénétration de 90 % d'Internet et une poussée de 33 % du mobile. La plateforme Hootsuite et l'agence We Are Social ont publié mardi le rapport Digital in 2018. Cette 7e édition couvre 239 territoires et pays. À l'échelle planétaire, le nombre d'utilisateurs Internet a franchi la barre des 4 milliards, laissant entendre que plus de la moitié, 53 % de la population mondiale, est branchée, une progression de 7 % sur un an. Le trafic web sur mobile connaît une poussée de 33 % au Canada. Et Brian Mulroney a défendu vigoureusement l'accord de libre-échange nord-américain en témoignant devant le comité du Sénat sur les affaires étrangères à Washington mardi. L'ancien premier ministre conservateur a affirmé que l'accord commercial avait bénéficié tant aux États-Unis qu'au Canada, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans l'établissement de la relation bilatérale la plus pacifique et prospère de l'histoire. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens, l'antenne de Canal M de Vues et Voix. Ici Hélène Denis, je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission.
Après deux bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Moi, je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir. Caché de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert. Et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. Tu bois et quoi encore? Perdre le nord. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Thank you.
Ce n'est pas un hasard s'il y a un peu plus d'un an, Andréane Amalette nous offrait cette pièce, premier extrait de son second album, cette pièce qui s'intitule Fou, qui est en lien bien sûr avec la santé mentale. Et on le rappelle, aujourd'hui, on est la journée en cause pour la cause.
Du Journal de Montréal, le roi des cliniques privées voit grand. Le docteur Marc Lacroix possède 7 cliniques privées. Il aimerait en détenir de 25 à 50. Les Australiens s'attaquent au monopole de la SAQ. Une première plainte à l'OMC. Vedette de Fugueuse dans la garde-robe de Ludivine Redding. Amende de 53 000 $ pour Marie-Lou Wolfe et Guillaume Lemaitre-Vierge. Marie-Lou Wolfe et son ex-conjoint Guillaume Lemaitre-Vierge ont tenté en vain de faire annuler par tribunal la semaine dernière une amende de près de 53 000 $ dont ils ont écopé pour avoir entrepris sans permis des travaux de démolition de leur résidence. Alors qu'ils formaient un couple, les deux vedettes québécoises ont amorcé en août 2015 d'importantes rénovations d'un immeuble du plateau Mont-Royal. Le hic, c'est qu'ils n'avaient pas obtenu à l'époque le permis nécessaire compte tenu de l'ampleur des travaux, estime la Ville de Montréal. Le comité constate que le présent projet constitue un cas sérieux de non-respect des procédures. Peut-on lire dans la décision qui suggérait l'imposition d'une amende de 50 000 $ plus 2 297 $ de frais? En fait, la Ville a bien accepté de délivrer un permis de démolition, mais les travaux avaient alors déjà été lancés. Marie-Lou Wolfe s'était d'ailleurs plainte sur les réseaux sociaux de la difficulté d'obtenir un permis. Depuis, le dossier traîne devant les tribunaux, déplore Mme Wolfe et M. Lemaitre-Vierge depuis séparés. L'immeuble n'appartient maintenant qu'à Marie-Lou Wolfe, qui dit dans un document de cour n'avoir personnellement eu aucune implication dans la démolition de l'immeuble. Les deux artistes ont invoqué les délais déraisonnables pour faire annuler les procédures. À moins que Mme Wolfe et M. Lemaitre-Vierge payent leur contravention de 50 000 $, le procès devrait avoir lieu à la fin mars. Un fugitif d'ici recherché par Interpol, l'enseignant montréalais inculpé de tentative de meurtre, se manifeste souvent sur les réseaux sociaux. Accusé de tentative de meurtre, Montréalais ayant profité de sa mise en liberté provisoire pour s'enfuir en Europe il y a 3 mois, se trouve la cible d'une traque policière pour le moins spéciale. La photo de Sébastien Normandin apparaît maintenant sur une liste de quelques 60 fugitifs canadiens recherchés dans 190 pays, par l'agence Interpol, a appris le Journal de Montréal. Le gouvernement accusé de favoriser les proches du PLC à quelques mois de la légalisation de la marijuana au pays, l'opposition fédérale flaire un scandale dans la présence de nombreux proches du Parti libéral du Canada au sein de l'industrie du cannabis. Le gouvernement Trudeau, lui, minimise la portée de ces liens. On l'a vu avec le scandale des commandites dans le passé, on dirait que c'est dans la culture des libéraux d'avoir des amis qui profitent du système, a dénoncé le député conservateur Alain Reyes, accusant le parti de favoriser ses proches pour qu'ils aient une longueur d'avance sur les autres investisseurs. Le premier ministre du Canada a rappelé que bien des gens sont en train d'investir dans l'industrie. Julian Fantino n'est d'aucune façon un ancien libéral, a souligné Justin Trudeau. en référence à l'ancien ministre conservateur qui a lancé en novembre dernier une compagnie de cannabis médical. La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a nié qu'il y avait un malaise au sein du cabinet face à la présence d'anciens libéraux dans l'industrie. Ottawa a caché 90 % de l'entente Netflix. Ottawa refuse de dévoiler presque la totalité des courriels que ses fonctionnaires ont échangés avec le géant du divertissement américain dans les mois qui ont précédé l'annonce de l'accord qui soulève depuis les passions au Québec. Au total, Patrimoine canadien a relâché quelques 730 pages de courriels, dont la très vaste majorité a été entièrement caviardée. Un maigre 10 % des pages de courriel a été rendu public, dont certains passages sont aussi masqués. C'est inadmissible, s'indigne celui qui a demandé les documents en vertu de la loi sur l'accès à l'information à l'Université du Québec à Montréal, Jean-Hugues Roy. À mon avis, ça révèle que le gouvernement a honte de l'entente avec Netflix. Mélanie Joly se défend de ne pas consulter adéquatement le milieu artistique d'ici. On a réinvesti 2,3 milliards de dollars en culture. Juste, par exemple, cette année, l'Orchestre symphonique de Montréal a reçu 100 000 $ de plus, illustre-t-elle. Mme Joly soutient que le fédéral a le devoir de protéger les informations confidentielles de Netflix, en vertu des lois canadiennes. L'ex-ministre fédéral des Sports, Ken Hare, se remet depuis lundi d'une crise d'épilepsie qui l'a forcé à passer la fin de semaine à l'hôpital. Au cœur d'une controverse sur son comportement inapproprié avec les femmes, le député quadriplégique a dû être admis à l'hôpital vendredi dernier. Après avoir subi une attaque à son domicile de Calgary, a-t-on appris hier. Ken Hare a démissionné jeudi dernier de son poste de ministre dans la foulée d'allégations de harcèlement sexuel. Il demeura au sein du Parti libéral du Canada jusqu'à la conclusion d'une enquête. Une résidente de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies à Montréal qui s'est gravement blessée après avoir chuté sur le trottoir glacé en sortant de chez elle jeudi dernier compte poursuivre la Ville de Montréal. Nadia Mirarchi s'est relevée mais a constaté que quelque chose n'allait pas. Un voisin lui a porté secours. La vidéo de sa chute a été filmée grâce à une caméra de surveillance. Nadia Mirarchi s'est gravement fracturée la cheville lors de sa chute. Elle a subi une première opération, mais en raison de l'inflammation et de la formation de cloques, la cheville de Mme Mirarchi doit être stabilisée avant de pouvoir réellement être réparée. 3 jours après la chute, le trottoir et la chaussée étaient toujours aussi glacés. L'homme des Laurentides qui faisait la grève de la faim dans une maison sinistrée afin que Québec débourse les sommes promises après les inondations du printemps a finalement eu gain de cause. Après la publication d'un article dans le Journal de Montréal hier, ses beaux-parents, propriétaires de la résidence située à Saint-André-d'Argenteuil, ont appris qu'ils recevront un chèque d'ici 2 semaines. Anne-Marie Forgette a obtenu confirmation que le ministère de la Sécurité publique verserait une bonne partie des sommes promises dans les 14 prochains jours. Son gendre, Alexandre Casavant, a donc cessé sa grève de la faim en début de soirée hier. Le prix de l'essence a fait un bond de 21 cents le litre dans la grande région de Montréal aux grandes dames des automobilistes. Lundi, à Montréal, l'essence ordinaire se vendait environ 1,16 litre le litre, pardon, dans les différentes stations de l'île. Mais les automobilistes ont eu droit à une mauvaise surprise à leur réveil hier, alors que le litre était vendu autour de 1,36 $ le litre. Selon le site essencemontréal.com, c'est dans l'arrondissement d'Anjou que le prix du litre de carburant était le plus élevé, soit à 1,37 $. Il était cependant toujours possible de faire le plein à un coût plus raisonnable alors que le litre d'essence ordinaire se détaillait entre 1,16 et 1,21 à divers endroits, notamment sur la rive sud.
Et à l'instant, on vient d'entendre Pink Martini avec la pièce « Hey Eugene ».
Les journaux régionaux, Denis Graton dans Le Droit, sa chronique s'intitule « Le long combat de Francis ». L'accident est survenu le 28 avril dernier à Val-des-Monts. Francis Langevin, 12 ans, et deux amis tentaient une expérience avec de l'alcool à friction et des torches. Une dangereuse expérience qui a bien mal tourné lorsque la bouteille d'alcool a explosé. Francis a été brûlé au troisième degré sur 35 % de son corps et il a été transporté d'urgence aux soins intensifs de l'unité des grands brûlés de l'hôpital de Montréal pour enfants. Le jeune adolescent a frôlé la mort. Il a été hospitalisé là-bas pendant 7 mois. Francis a reçu son congé de l'hôpital le mois dernier et il est de retour au sein de sa famille à Gatineau. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Si on compare au premier mois, c'est sûr que c'est mieux, de répondre sa mère Céline Tessier. Francis va de mieux en mieux. Par contre, ce n'est pas une guérison qui se produit du jour au lendemain. Donc, c'est un peu décourageant parce que les résultats ne se font pas voir aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Mais nous étions conscients que la guérison serait lente. Mais Francis est démotivé par moments. Du côté des douleurs de poursuivre Mme Tessier, c'était l'enfer au début. Les médecins n'arrivaient pas à trouver les bons médicaments et les bonnes combinaisons et ils étaient incapables de contrôler la douleur. Mais les médicaments ont été modifiés avec le temps et Francis s'est habitué aux 3 massages thérapeutiques quotidiens qu'il doit recevoir. Il a développé une certaine tolérance à la douleur. On a moins de difficultés de ce côté-là. Oui, la douleur est toujours là et Francis prend toujours de la morphine, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, donc on avance. C'est long comme processus, comme progression, mais c'est positif. Céline Tessier a dû quitter son emploi à la fonction publique fédérale en avril dernier pour consacrer la prochaine année au rétablissement de son fils. À l'hôpital de Montréal, on m'a dit que j'en aurais pour au moins 1 an, affirme-t-elle. J'ai donc obtenu un congé sans solde. Mais je ne vois pas comment je pourrais retourner travailler en avril prochain. C'est un emploi à temps plein de m'occuper de Francis et de mes 2 autres enfants âgés de 14 et 16 ans. Les soins à domicile, les nombreux rendez-vous médicaux, les massages thérapeutiques à la ressource, les traitements, les suivis à Montréal, ça ne finit plus. Et comme si l'horaire de Mme Tessier n'était pas déjà assez chargé, elle doit de plus réorganiser sa vie. Elle et son conjoint, qui n'est pas le père de ses enfants, s'étant récemment séparés. Mais heureusement, dit-elle, ma mère et mes sœurs sont là pour m'aider avec mes 2 autres enfants. Céline Tessier a lancé une campagne de sociofinancement il y a quelques mois pour l'aider avec les coûts liés au rétablissement de son garçon. Et l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts a aussi organisé une collecte de fonds cet hiver pour lui offrir un appui financier. Je me sentais un peu mal quand j'ai lancé la campagne de sociofinancement à vous, Mme Tessier. J'ai mon orgueil, je veux être capable de me débrouiller toute seule. Mais en même temps, je me rends compte que ça n'a pas de bon sens et que c'est même impossible. Je n'ai que la moitié de mon salaire qui entre, mais les obligations restent les mêmes. En fait, j'ai beaucoup plus de dépenses qu'auparavant avec le coût des crèmes pour Francis, les déplacements pour les rendez-vous médicaux, l'essence, le stationnement et le reste. Je n'ai donc eu d'autre choix que de demander l'aide du public. Si vous pouvez aider, gofundme.com, mot-clé « Rétablissement de Francis » ou visitez la page Facebook de l'Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. Dans le soleil, Patricia Cloutier, 16 millions pour compenser la fin de la chasse aux caribous. Québec sonne la fin de la chasse aux caribous dans le Nord, mais tente d'atténuer les impacts en injectant 16 millions de dollars pour démanteler les camps de chasse abandonnés et compenser les pourvoiries. À partir du jeudi 1er février, la chasse sportive aux caribous migratoires sera interdite dans le Nord du Québec. Seuls les Autochtones auront le droit de pratiquer une chasse de subsistance. Luc Blanchette, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, a présenté à l'Assemblée nationale mardi sa stratégie de vitalité pour le Nord. Sauf que seulement 300 000 $ des 16 millions de dollars iront à trouver des solutions pour diversifier l'activité touristique dans le Nord. Le reste de la somme ira au nettoyage des camps de chasse mobiles. M. Blanchette a rappelé que la décision de mettre fin à cette chasse avait été difficile à prendre en décembre 2016, mais nécessaire. Alors que le troupeau de la rivière Georges est presque décimé, c'est au tour du troupeau de la rivière aux feuilles de subir un important déclin ces dernières années. Geoffrey Kelly, ministre responsable des Affaires autochtones, a fait valoir que la stratégie permettra de créer des emplois chez les Inuits et les Naskapis qui pourront s'atteler à remettre à l'état naturel les sites de chasse. Marc Plourde, PDG de la Fédération des pourvoiries du Québec, évalue qu'une dizaine de pourvoiries installées dans le Nord devront carrément fermer leurs portes cette année et que plusieurs personnes perdront leur emploi. Pour les autres, l'aide de Québec est bienvenue, le temps de trouver un autre type d'offre touristique comme la pêche, la motoneige ou la descente rapide de rivière. Le ministre Blanchette a évoqué la chasse aux loups, mais M. Plourde est persuadé que ça ne remplacera jamais l'importance de la chasse aux caribous qui a longtemps été un produit d'appel du Québec, populaire auprès des touristes américains et européens. M. Plourde espère de l'aide supplémentaire du gouvernement du Québec afin de construire le futur du tourisme nordique. M. Blanchette a laissé entendre que de l'aide pour les compagnies d'aviation de brousse pourrait venir. Le Parti québécois a vivement critiqué cette stratégie libérale qui vient mettre le dernier clou dans le cercueil du développement faunique du nord du Québec. Le député Sylvain Roy accuse le ministre Blanchette d'être sourd aux solutions amenées par les pourvoyeurs pour se repositionner. Le compte à rebours est commencé pour le démantèlement de l'économie faunique, déplore-t-il. Dans le Nouvelliste, François Houde, Alexandre Desjardins, président d'honneur du Salon du Livre de Trois-Rivières. Le Salon du Livre de Trois-Rivières en sera à sa 30e présentation du 22 au 25 mars 2018. Et cette édition, placée sous le thème « Jouer d'audace », sera célébrée avec faste. À preuve, le président d'honneur du Salon sera nul autre que l'écrivain français Alexandre Jardin, qui sera sur place pendant toute la durée de l'événement. Autre invité prestigieux, le rappeur et écrivain Biz agira à titre d'écrivain en résidence, si bien qu'il lui incombera d'écrire un texte par jour qu'il livrera quotidiennement au public sur scène et sur le site Internet du Salon. Ce 30e anniversaire constituera une étape importante dans l'évolution de l'événement puisque plusieurs éléments qui l'enrobent font l'objet de changements. Par exemple, on a transformé l'image de marque du Salon avec un nouveau logo épuré et élégant présenté dans de sobres tons de bleu foncé et de grège. On a aussi rompu avec la facture habituelle de l'affiche qui, dans sa nouvelle conception, met de l'avant cinq symboles qui constituent la boîte à outils de l'écrivain. Le cœur, la plume, le fou du jeu d'échecs, les allumettes, l'orange qui se défait de sa peau et le sablier. Dans la tribune, Isabelle Pion, la fermeture prochaine du service de garde Le Virevent au complexe familial coopératif a semé la consternation auprès des parents d'enfants fréquentant ce service de garde. Celui-ci cessera ses activités le 7 février après avoir reçu un avis d'évacuation du ministère de la Famille parce qu'il fonctionnait sans permis. Environ une cinquantaine de familles doivent trouver un plan B afin de relocaliser leurs enfants. Le ministre de la Famille, Luc Fortin, assure que le ministère n'avait pas d'autre choix. « On est en situation de garde illégale », commente M. Fortin, en rappelant que le complexe a ouvert ses portes en 2016. Celui-ci est situé dans les installations du CPE Le Bilboquet, tout près du Cégep Sherbrooke. Les enfants doivent être évacués pour le 8 février, note M. Fortin. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et à venir, les actualités culturelles et puis aussi les sujets libres. Je vais vous lire la chronique signée Patrick Lagacé d'aujourd'hui.
Comme une idée au mille vents, mais s'il y avait quelque chose à regretter, je je regretterai, ne le dites jamais. Rencontrez-vous qui me parlez d'expérience. Vous m'avez volé ma dernière chance. Que j'ai raison, que j'ai tort, bien en dedans ou en dehors. C'était pas né que je chantais encore. Du monde, dans le secret de mes chansons, jamais accordé les secondes, j'ai défilé les horizons, mais s'il y avait quelque chose à regretter, je regretterais s'il vous plaît, de vous l'avoir demandé, vous, qui me parlez de complaisance, vous, m'avez volé mon innocence, que j'ai raison, que j'ai tort. C'est pas né que je chantais encore. Si l'avenir est un mystère, que je l'aime comme un fou, je fais confiance à la misère qui change les champs loups. Si l'avenir est un mystère, le souvenir reste debout. Si vous m'apercevez par terre, c'est que je fais une sieste, c'est tout. Bonjour, le message est pour Monsieur Coulet. Simplement pour vous annoncer que votre candidature a été refusée pour une seconde fois. Et oui, alors prière de bien vouloir baisser les bras et de ne plus jamais recommencer. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter toutes mes sympathies pour votre espoir. Nous espérons qu'il soit bel et bien mort. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre site internet. Merci à vous, bonne fin de journée. T'es pas né que je chantais encore. Si l'avenir est un mystère, que je l'aime comme un fou, je fais confiance à la misère qui change les champs loups. Si l'avenir est un mystère, le souvenir reste debout. Si vous m'apercevez par terre, c'est que je fais une sieste, c'est tout.
On vient d'entendre la nouveauté de Pierre-Hervé Goulet qui s'intitule « Bien à vous ».
Actualité culturelle, tout le monde parle du spectacle de François Bellefeuille et les critiques sont vraiment très, très positives. Je vous en lis une dans la presse d'aujourd'hui. Un poids lourd de l'humour, le plus fort du monde, le plus fort au monde, c'est le titre du spectacle de François Bellefeuille qui sera présenté les 2 et 3 février à l'Olympia. La première avait lieu hier. C'est la chronique de Stéphanie Vallée. 3 ans après son tout premier spectacle solo, François Bellefeuille était de retour sur scène hier soir au Théâtre Maisonneuve pour présenter Le plus fort au monde, une nouvelle mouture où l'on retrouve bien sûr le personnage de scène colérique qui a fait son succès, avec cette fois une touche beaucoup plus personnelle. Bien des destins d'humoristes se précisent lors d'un deuxième spectacle. Poursuivra-t-il exactement dans la même veine? Fera-t-il un virage à 180 degrés? N'était-il que la saveur du moi? On avait bien hâte de découvrir où s'en irait François Bellefeuille avec son personnage irascible et sans filtre. Et on espérait secrètement qu'il s'efface juste un tout petit peu pour laisser plus de place aux curieux humoristes. Pour Le plus fort au monde, François Bellefeuille a, à notre grand bonheur, choisi de puiser dans sa vie de famille pour alimenter les délires de son personnage, avec lequel il renoue dès les premières secondes à travers le récit de sa haine des soirées vins et fromages. C'est pas pour rien que les couteaux ont un bout arrondi. C'est pour pas que je me les plante dans la gorge, lance-t-il, tout aussi irrité que quand il parle des cartes de fidélité. Tous ceux qui ont la carte Hermès, sacrez votre camp. Avez-vous la carte François? Avec la carte François, vous gagnez un tour dans le coffre de mon char. Toujours aussi efficace, le personnage colérique s'adoucit quelque peu en parlant de sa blonde, rencontrée sur Kijiji, une relation qui le pousse à bien des compromis qui ont le don de le faire enrager, comme une visite au centre d'interprétation de la courge ou les convictions environnementales de sa conjointe. La seconde moitié du spectacle est de loin la plus réussie. François Bellefeuille y présente sur un tableau une série de dessins qu'il a réalisés à l'âge de 8 ans et que sa mère a retrouvés. Un segment hilarant où l'on découvre notamment Superman, l'homme le plus fort au monde, avec son pénis. C'est le titre. Les divagations de François Bellefeuille qui s'ajoutent au caractère comique des dessins eux-mêmes laissent les spectateurs presque en larmes à force de rire. L'humoriste aborde avec originalité sa paternité, évoquant avec le sarcasme qu'on lui connaît les contours de comparaison entre parents des prouesses de leurs enfants. « Mon enfant a conduit à 14 mois et il est mort dans un accident de char. Ça a mis un fret au parc », grogne-t-il avant de digresser sur sa propre enfance et son adolescence, tout en projetant une série de photos plutôt cocasses. Le public hilar découvre un François Bellefeuille aux prises avec un surplus de poids qui a perdu 60 livres à l'âge de 25 ans. Puisant dans l'intime, l'humoriste a concocté des textes efficaces qui, conjugués à son sens aiguisé de l'observation, ne manquent presque jamais leur cible. Seul petit bémol de la soirée, le numéro consacré à un livre sur les insultes à travers le monde dont l'humoriste a sélectionné les pages les plus insolites. On a un peu de mal à embarquer dans ce tableau qui semble arriver comme un cheveu sur la soupe. La plus grande qualité de François Bellefeuille est sans aucun doute son originalité, qu'il doit en grande partie à sa livraison et à sa gestuelle. Pour son deuxième spectacle, il passe le test haut la main. Il ne se répète pas, fait évoluer son personnage grâce à un ton plus personnel, plus rassembleur. Au cours des 6 dernières années, l'humoriste sera ainsi passé de découverte de l'année à poids lourd de l'humour. Alors qu'Elton John prépare sa tournée d'adieu, qui durera 3 ans, c'est par un simple concert que Paul Simon pourrait faire ses adieux à la scène. Âgé de 76 ans, l'auteur, compositeur, interprète émérite moitié du défunt duo Simon & Garfunkel donnera cet été au Hyde Park de Londres un concert intitulé « Homeward Bound » de « Farewell Performance ». Il pourra compter sur des invités comme James Taylor et Bonnie Raitt pour cet ultime concert offert dans le cadre du festival British Summertime le 15 juillet. Pendant la tournée acclamée de son album Stranger to Stranger, qui était passé par Montréal en juin 2016, Simon avait confié au New York Times qu'il n'avait plus d'intérêt pour l'industrie du spectacle. Rolling Stone rappelle toutefois qu'il avait tenu des propos similaires dans les années 90. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Amos Daragon s'apprête à faire le saut vers le cinéma. Le trio de réalisateurs québécois RKSS, Turbo Kid, entre parenthèses, portera bientôt à l'écran les aventures du héros littéraire créé par Brian Perrault. Pratiquement tous les Québécois connaissent le personnage, alors c'est un très gros défi de faire triper tous les fans, explique François Simard, membre du trio de réalisateurs avec Anouk et Johan Carl Whistle au Journal de Montréal. L'auteur, Brian Perrault, sera quant à lui impliqué dans le projet, tenant un rôle qui sera détaillé prochainement, probablement à titre de consultant. Je leur fais confiance et je les laisse aller, mais je me rends disponible pour garder le tout cohérent à l'univers d'Amos Daragon, explique-t-il. Publié entre 2003 et 2006, les 12 tomes de la populaire saga se sont vendus à plus de 2,5 millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus d'une quinzaine de langues. Il relate les aventures du personnage titre chargé de rétablir l'équilibre dans son monde avec l'aide de ses complices Beorf, Lolia et Médusa. Napoléon sur le terrain de l'image. Le Musée des beaux-arts de Montréal propose une vaste exposition sur la maison de l'empereur. C'est une nouvelle de Caroline Montpetit dans Le Devoir, Cahier Culture. Il a instauré l'empire après la monarchie à la tête d'une chaotique France post-révolutionnaire. Homme de terrain, de nature peu friand de mondanité, Napoléon Bonaparte tenait tout de même maison, c'est le moins qu'on puisse dire. Il logeait donc avec ses suites dans 5 demeures différentes, entretenues et habitées par quelque 3500 personnes de son entourage. En matière de campagne, de relations publiques, on peut dire que le pari a été réussi. Après seulement 10 ans de règne et près de 200 ans après sa mort, l'image de l'empereur et son nom sont toujours célèbres. L'entourage de Napoléon, qu'on appelle la maison de l'empereur, était dirigé par 6 grands officiers de la couronne et se déployait dans 5 châteaux ayant jadis été habités par des rois de France. C'est donc à cette vie de cour qui se déroulait 20 ans après la Révolution française que nous convoque le Musée des beaux-arts de Montréal avec la grande exposition « Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial ». Cette vaste exposition qui réunit 400 peintures et objets de quelque 50 prêteurs est aussi l'occasion pour le MBAM de célébrer les 10 ans de l'acquisition par le musée de plusieurs œuvres de la collection napoléonienne de Ben Wider, cet homme d'affaires d'origine polonaise vivant à Montréal qui a fait fortune dans le culturisme. Passionné de Napoléon, il a écrit une douzaine d'ouvrages sur l'empereur, dont plusieurs démontrant son empoisonnement à l'arsenic, rappelle la directrice du Musée des beaux-arts, Nathalie Bondil, dans le catalogue « La maison de l'empereur » qui accompagne l'exposition. Wider aurait notamment apprécié le fait que Napoléon avait libéré les Juifs des ghettos lors de sa campagne en Italie. Parmi les œuvres et objets que Wider a donnés au musée, on retrouve notamment le célèbre bicorne de l'empereur, le seul en Amérique du Nord, précise Nathalie Bondil, et le portrait en buste de Napoléon en grand habillement réalisé dans l'atelier de François Gérard. Et au sujet de cette exposition, Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial, vous pouvez la visiter au Musée des beaux-arts de Montréal du 3 février au 6 mai 2018. Et pour terminer, triste nouvelle, l'acteur Mark Sully, qui incarnait Noah Puck Pockerman dans la série musicale Glee, est mort hier à l'âge de 35 ans, a confirmé son avocat à l'Associated Press. Si ce dernier n'a pas précisé la cause du décès, une personne travaillant pour les forces de l'ordre, qui n'est pas autorisée à parler publiquement de ce cas, a raconté que l'acteur avait été trouvé pendu dans une résidence du quartier Tujunga à Los Angeles. Mark Sully avait plaidé coupable l'an dernier à des accusations de possession de pornographie juvénile et il devait se présenter en cour le 7 mars afin de connaître sa peine. Selon les procureurs, son ordinateur contenait plus de 50 000 images pornographiques mettant en scène des mineurs. Faire oublier
sans une cicatrice. Mais quand le blues revient me hanter.
On l'a découvert au sein de la formation Okoumé il y a de ça près d'une vingtaine d'années, mais il jouit maintenant d'une grande carrière solo. C'est un extrait de son album La tête haute, Jonathan Pinchot, et la pièce Belle infirmière.
Et la chronique de Patrick Lagacé s'intitule « Voici le visage des soins infirmiers ». Lundi matin, Émilie Ricard est rentrée du boulot, au bout du rouleau. Elle est infirmière en CHSLD en Estrie. Elle a décidé de se confier à Facebook en commençant par une citation du ministre de la Santé. « La réforme du système de la santé est un succès. » Voici le visage des soins infirmiers. « Hey, mon petit docteur, je ne sais pas où tu puises tes informations, mais c'est sûrement pas dans la réalité. » Pour avoir accès au reste du texte, il fallait appuyer sur « plus » et sous ce « plus » en gros plan. Le visage d'Émilie était le visage évoqué dans la première ligne de son texte, un visage défait par les larmes. Dans son texte, Émilie se disait « vidée ». Exténuée après une nuit à se démener comme une folle parce qu'elle est seule pour couvrir entre 70 et 76 patients, avec une infirmière auxiliaire et deux préposés aux bénéficiaires. Elle raconte la lourdeur des tâches, le caractère délicat des interventions et le spectre très large des maux qui affligent ces patients. « Je pars de mon quart la tête pleine car j'ai laissé le patient dans un état instable », écrit-elle au sujet de l'un d'eux. Et que je n'ai pas pu faire toutes mes tâches. Émilie part la tête pleine, et plusieurs de ses patients ont la couche pleine. Pas eu le temps de les changer pendant la nuit. Elle raconte le quotidien de beaucoup d'infirmières au Québec, un quotidien qui en pousse certaines à faire des actions d'éclat que vous voyez peut-être passer ces jours-ci. Je pense notamment à ce sit-in à la Cité de la Santé pour protester contre le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire. C'est un exemple parmi plusieurs. Après avoir écrit et pleuré, Émilie s'est donc assoupie d'un sommeil un peu tourmenté. Sur le coup, m'a-t-elle expliqué hier soir dans une entrevue téléphonique, j'ai publié sans trop penser à la force de Facebook. À son réveil, peu après, son cri du cœur avait déjà été partagé 300 fois. Et au moment d'écrire ces lignes hier soir, la viralité de son statut était plus intense qu'une épidémie de gastro en CPE. 41 744 partages, 28 000 mentions « j'aime ». Émilie a un peu paniqué en constatant que son statut prenait en feu. Je me suis dit « oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce une erreur? Je ne voulais pas que mon employeur se sente attaqué. Je ne l'attaquais pas. Ce n'est pas de sa faute. Le problème est à grande échelle. Il est provincial, je me suis dit. Si mon employeur se sent attaqué, je suis dans le trouble. » Il y a une petite peur qui m'a saisie, je dois dire. Les partages se multipliaient, les j'aime aussi, ainsi que les messages d'appui dans sa messagerie. Émilie Ricard a contacté Sophie Séguin, présidente locale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. « Je pense, lui a dit Émilie, que je viens de larguer une bombe. »« Je le pense aussi », lui a répondu Sophie Séguin. « Mais c'est correct, on en avait besoin ». Émilie Ricard a une toute petite voix et n'a pas de fibre militante. Quand elle a appelé son syndicat lundi matin, c'était son premier véritable contact avec son syndicat. Elle a 24 ans. Infirmière, c'est sa vocation. Dans les premiers stages au cégep, là où d'autres découvrent que ce métier n'est pas pour eux, Émilie a plutôt attrapé le virus. j'ai tout de suite vu que c'était pour moi. C'est... point de suspension. L'infirmière aux cheveux roses cherche ses mots, me dit qu'elle est sous le choc de tout l'intérêt suscité par son texte, qu'elle n'est pas habituée à parler comme ça à un journaliste. Elle trouve les mots. C'est ultra gratifiant d'aider les patients, malgré tout ce qu'on peut dire sur le côté difficile du métier. Ça donne un sens à ce qu'on fait. C'est spécial, la relation avec un patient. Elle est infirmière depuis 3 ans, a déménagé de la Mauricie à l'Estrie pour avoir un poste à temps plein. Elle travaille de nuit, par choix. Songeais-tu à écrire ce texte depuis longtemps? Non, je n'écris pas des textes comme ça d'habitude. J'ai décidé d'écrire après une nuit où j'étais dépassée par la tâche. Mais je pensais jamais que ce serait partagé comme ça. Je pensais que ma grand-mère et ma tante le liraient. Si des milliers de gens ont lu et partagé son texte, croit-elle, c'est parce qu'elle a mis des mots sur des sentiments de beaucoup de personnes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Es-tu surprise de pleurer en écrivant ton texte? Étais-tu surprise de pleurer en écrivant ton texte? C'est la question que lui pose M. Lagacé. Non, ce n'était pas la première fois que je rentrais à la maison en pleurant. C'est ça le visage des soins infirmiers. On est à bout de souffle. On est plein à finir dans cet état. Je répète qu'Émilie Ricard n'a que 24 ans, 3 ans d'expérience à peine. Infirmière, c'est sa vocation. Elle commence sa carrière, mais déjà elle se sent au bout du rouleau, comme beaucoup d'autres artisans du réseau. Je suis triste de penser à me réorienter. Pour faire quoi? Je sais rien faire d'autre. J'ai des émotions contradictoires, je suis déchirée entre l'amour que j'ai pour mon travail et l'amour que j'ai pour ma personne, pour ma santé. Les gestionnaires du réseau de Gatineau à Gaspé ont une sainte horreur des sorties publiques de leurs employés, des cris du cœur comme celui lancé par Émilie Ricard, d'où les constants rappels, subtils ou pas, que les employés sont tenus à un devoir de loyauté face à leur employeur. Ce fameux devoir de loyauté est dans le Code civil. Mon expérience du monde de l'éducation est claire. Ce devoir de loyauté est utilisé comme matraque par les commissions scolaires pour faire taire les profs qui pourraient être tentés de faire des sorties publiques sur les médias sociaux ou dans les médias pour dénoncer les ratés du système. Il ne faut pas être un fin limier pour comprendre pourquoi les gestionnaires du réseau ont peur de cris du cœur comme celui qu'a lancé Émilie Ricard. Parce que mis bout à bout, ils dessinent quelque chose comme la vérité. Et que les témoignages bruts des salariés épuisés, c'est 1000 fois plus efficace qu'une conférence de presse syndicale. 41 000 fois plus efficace même. Le système gère des problèmes. C'est vrai partout dans les structures de l'État. Si le problème n'est pas nommé, montré et démontré, il n'existe pas. Ou en tout cas, il est plus facile à nier. « Voyez nos belles statistiques, dira le gestionnaire. Les choses vont tellement mieux, dira le ministre. » Émilie Ricard espère ne pas être sanctionnée pour son cri du cœur. Son syndicat lui a dit que ce ne serait probablement pas le cas. On verra. Ce serait un scandale si elle l'était. En sourdine, le bébé de 14 mois d'Émilie fait des siennes. C'est l'heure du souper. Avant de la laisser aller, je demande à la jeune infirmière ce qu'elle espère pour la suite des choses. Émilie Ricard réfléchit. S'excuse encore de ne pas trouver les mots rapidement. Les choses sont allées si vite, répète-t-elle. J'ai ouvert une porte, je pense. Une porte pour que les professionnels du réseau s'expriment. J'espère que ceux qui m'ont exprimé leur appui en privé vont parler publiquement pour qu'on brise le silence. Je sais que ça prend du courage, mais je leur dis que la population est prête à nous écouter. Je finis d'écrire cette chronique et le statut d'Émilie Ricard en est rendu à 42 198 partages, soit 454 partages de plus que quand je l'ai commencé. On dirait bien que les Québécois, en effet, ont le goût d'écouter les témoignages de ceux qui tiennent le réseau à bout de bras. Traduction douteuse publiée par TELUS. L'entreprise canadienne a suspendu son compte Twitter hier. Le fonds TELUS a publié sur son compte, au cours des dernières semaines, une série de publicités en français si mal traduites qu'elles sont incompréhensibles. On en parle dans le Journal de Montréal de ce matin. Prenez une grande respiration, broyez-vous, va le tuer, pouvait-on lire sur une image dévoilée le 22 janvier et effacée hier. Cette citation serait l'équivalent français de « Take a deep breath, ground yourself, go kill it ». Après s'être attiré les foudres de nombreux internautes francophones, la compagnie canadienne de télécommunications dont le siège social est à Vancouver a indiqué sur Twitter hier en soirée avoir pris connaissance de cette publication. Elle est complètement inappropriée et inacceptable. Nous nous excusons et allons corriger la situation, mentionne-t-on, sans donner davantage d'explications. Plusieurs autres messages mal traduits ont été publiés par le fonds TELUS, dont le mandat est de financer du contenu lié à la santé et au mieux-être. Des citations énigmatiques comme « Que chaque situation soit ce qu'elle est, au lieu de ce que tu penses que ça devrait être » ou « Vous devez nourrir, vous s'épanouir » ont été émises en décembre dernier. Contacté à ce sujet, TELUS s'est excusé pour l'ensemble des publications problématiques. Le compte a été suspendu afin de nous assurer que nos processus de traduction sont respectés et que les messages sont validés par nos équipes en communication aux médias sociaux basées au Québec, a précisé par courriel le responsable des relations médias François Gaboury. Vers 19h, le compte de fond TELUS avait disparu. Il a été impossible d'obtenir davantage de réponses à nos questions. Pour Jean-Paul Perrault, président de l'organisme Impératif français, ces traductions douteuses sont révélatrices du mépris de TELUS pour le Québec. On est porté à rire de ça, mais ce ne sont pas des erreurs anodines, a-t-il souligné. C'est grave qu'une grande compagnie comme TELUS n'ait pas mis en place une culture organisationnelle respectueuse du Québec et de la francophonie. L'événement n'est pas sans rappeler la gaffe linguistique qu'a commise le gérant de la nouvelle boutique Adidas à Montréal en novembre dernier. Il avait dit vouloir accommoder Montréal en prononçant quelques mots en français. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi, dernière journée de janvier. À venir, les paractualités. Merci de nous écouter en direct. Sinon, allez faire un tour sur notre site Internet. Merci Jean-Sébastien Laliberté.